Bonsoir. Monsieur le recteur Corbeau, Monsieur Lamonde, Mesdames et Messieurs, bienvenue à la Grande Bibliothèque. Mon nom est Guy Bertillon, mais je suis président-directeur général de Bibliothèque et Archives nationales du Québec. C'est évidemment pour moi un grand plaisir de vous accueillir à ce premier événement à voir le jour dans la foulée de l'entente de partenariat que nous avons signée avec l'UQAM le 10 décembre dernier. Je suis particulièrement heureux de cette entente et qu'elle soit avec notre voisine l'UQAM, c'est aussi pour moi symbolique. Il y a bien sûr entre nous et l'UQAM une proximité géographique, mais aussi, encore plus, une parenté de valeurs. Nous sommes deux institutions nées d'une volonté de l'État québécois de pousser plus avant ses initiatives de démocratisation, accès démocratique à la culture et au savoir pour nous, accès démocratique au savoir et à la culture et à la formation pour l'UQAM. La série « La révolution tranquille, 50 ans d'héritage » est emblématique de la mise en action de notre volonté de démocratisation et notre projet a rapidement trouvé des partenaires pour lui permettre de se développer pleinement. Nous profitons de l'appui financier du ministère de la Culture, des Communications et de la Condition féminine. Je remercie M. Pierre Pouliot, du cabinet de la sous-ministre du MCCF, qui est avec nous ce soir. Je remercie également la presse, notamment M. André Pratt et Mme Christiane Dubé, de s'être associés à la promotion de la série. Grâce à l'appui de Télé-Québec et de Canal Savoir, la conférence de ce soir et les suivantes seront diffusées sur Canal Savoir dès le printemps. Je remercie de leur précieuse collaboration Mme Michèle Fortin, présidente-directrice générale de Télé-Québec, M. Claude Plante, le directeur général des régions, des partenariats et des affaires internationales de Télé-Québec, de même que Mme Sylvie Godbout, la directrice générale de Canal Savoir. Enfin, je remercie tout particulièrement le recteur de l'UQAM, mon ami Claude Corbeau, d'avoir été la tête pensante de cette série de conférences. Avant de lui céder la parole, je vous invite, comme c'est l'usage, à bien vouloir éteindre vos téléphones cellulaires, vos téléphones portables, et je cède la parole au recteur Claude Corbeau.
Merci, M. Bertillon, de vos aimables propos à l'endroit de l'Université du Québec à Montréal et de celui qui vous parle. Et je vous dis tout mon plaisir de me retrouver dans ce lieu magnifique qu'est la Grande Bibliothèque. Alors donc, nous savons que 2010 marque le 50e anniversaire de ce que l'on a appelé la Révolution tranquille. Mais 50 ans après, bien sûr, on peut se demander ce qu'il reste des transformations du Québec opérées par cette Révolution tranquille des années 1960. Pour certains, peut-être est-ce un effet de génération, pour certains, le Québec actuel vit de l'héritage de la Révolution tranquille. Un État moderne, un système d'éducation, Hydro-Québec, la Caisse de dépôt et de placement, l'assurance maladie, voilà donc autant d'héritages encore vivants, valorisés, chéris même, qui définissent, dit-on, et protègent le Québec d'aujourd'hui. Pour d'autres, au contraire, ces acquis envoûtent, paralysent, disent-ils, le Québec au moment où on est entré dans un monde différent, celui du 21e siècle. Pour y voir clair, donc, l'UQAM et Bibliothèque et Archives nationales du Québec ont organisé, tout au long de cette année 2010, un cycle de 8 conférences pour explorer, dans un premier temps, les origines et les accomplissements de cette révolution tranquille et pour chercher à mieux en mesurer, dans un deuxième temps, la présence et la portée actuelle. Alors, cette première conférence porte sur les origines intellectuelles et idéologiques de la révolution tranquille. Et elle vous sera livrée par Yvan Lamonde. Yvan Lamonde, qui est un très grand spécialiste de l'histoire des idées et de la vie intellectuelle et culturelle du Québec. Yvan Lamonde a eu une formation en philosophie. C'est d'ailleurs en 1964 que j'ai fait sa connaissance dans un monde un peu différent de celui d'aujourd'hui, pendant les années très chaudes de la Révolution tranquille. Il a une double formation en philosophie et en histoire. Il a accompli tout au long de sa vie une œuvre scientifique extrêmement considérable sur le domaine de l'histoire culturelle et intellectuelle du Québec et l'histoire des idées au Québec. Il s'est intéressé aux conditions matérielles de la vie intellectuelle et culturelle. Il s'est intéressé au rapport entre le Québec et le reste du monde. Il s'est particulièrement consacré à l'étude de la vie intellectuelle au cours de l'histoire québécoise et de l'histoire des idées au Québec. On lui doit, par exemple, des éditions critiques de Louis-Joseph Papineau, Étienne Parent, Louis-Antoine Dessaulles. Il a fait une biographie de ce personnage peu connu, Dessaulles, qui lui a valu le prix du gouverneur général. Surtout, Yvan Lamonde est en train de réaliser un ouvrage fondamental, l'histoire sociale des idées au Québec, qui comptera un jour 4 tomes couvrant la période depuis 1760 jusqu'au milieu des années 1960. C'est donc quelqu'un qui connaît à fond l'histoire intellectuelle, culturelle du Québec. C'est quelqu'un qui vous entretiendra donc des origines idéologiques et intellectuelles de la Révolution tranquille. Monsieur Lamonde, merci.
Bonsoir, mesdames, messieurs. Je remercie d'abord le président-directeur général de Bibliothèque et Archives nationales du Québec, M. Berthiaume, et Claude Corbeau, recteur de l'Université du Québec à Montréal, de m'avoir offert l'occasion et l'obligation de mettre mes idées au clair et aussi de venir en tester la validité auprès de vous. Si j'ai quelque crédibilité à vous prendre votre temps ce soir pour parler de la Révolution tranquille, c'est entre autres choses que je prépare un ouvrage sur l'histoire des idées, le tome 3 qui porte sur la période 1929-1939 est terminé et le suivant portera sur la période 1939-1965. La recherche est faite à 80%. Alors donc, j'ai une assez bonne idée de la trajectoire de ce qui se passe entre 1930 et, disons, 1965. J'aimerais aborder devant vous quatre aspects de cette question de la Révolution tranquille. D'abord, ce sur quoi nous avons prise quant à la compréhension de ces événements. Deuxièmement, ce qui m'apparaît être l'insaisissable de la Révolution tranquille. Troisièmement, le très fondamental pour moi de la question de la Révolution tranquille, c'est-à-dire le rapport au passé que ces changements ont induit. Et finalement, je voudrais vous proposer de sortir de la grande noirceur et, si possible, de l'utilisation du thème « la grande noirceur ». Alors, Claude Corbeau y a déjà fait indirectement allusion. Ce sur quoi nous avons prise quant à la compréhension de la Révolution tranquille, c'est un certain nombre de réformes que Claude a énumérées, que Guy Rocher avait assez bien détaillé dans une conférence à McGill qu'il a publiée sous le titre « Le laboratoire de la Révolution tranquille ». Il s'agit, à vrai dire, de réformes importantes dans le domaine de l'éducation, des réformes dans ce domaine qui avaient été amorcées dans l'après-guerre et dans les années 50 par Arthur Tremblay et d'autres de ses collaborateurs, réformes dans le domaine des affaires sociales, où là encore, Paul Sauvé avait initié des changements avant 1960, l'étatisation ou nationalisation des pouvoirs hydroélectriques qu'on revendiquait depuis 1910, qu'on a davantage revendiqué dans les années 30, mais il faut bien savoir que la province la plus capitaliste du Canada avait accompli en 1905, c'est-à-dire que Hydro Ontario existait depuis quelques 58 ans, ou à peine lorsqu'on a décidé de faire la même chose au Québec. Des réformes dans le domaine de la fonction publique et dans l'appareil d'État, des réformes qui avaient été en partie amorcées par ceux qui vont sortir de l'École des sciences sociales du Père Lévesque et qui, souvent, ne trouvant pas de porte ouverte à Québec, vont trouver des portes ouvertes à Ottawa. L'exemple de ça, c'est bien sûr Maurice Lamontagne, l'économiste. Autre réforme, autre changement important, c'est l'évolution, la transformation du mouvement nationaliste. Non seulement il va passer vers la gauche et le centre-gauche, mais il va faire il va effectuer ce tournant en devenant un mouvement indépendantiste, lui aussi amorcé dans les années 30 avec le maître chez soi, le maître chez nous des Jeunes Canada. À nouveau, ce nationalisme qui évolue au début de la décennie de 1960 part d'un mouvement nationaliste indépendantiste de droite de Barbeau avec l'Alliance Laurentienne, mais il est manifeste qu'avec le Rassemblement pour l'indépendance nationale, le nationalisme et le mouvement indépendantiste prend une tournure nouvelle et qui sera perpétuée en partie par la suite. Donc, il s'agit de réformes déjà amorcées dans la décennie précédente, à tout le moins, des réformes qui avaient été faites ailleurs, au Canada ou en Occident. Et donc, lorsque on veut transformer en révolution, même tranquille, des réformes, il y a, je pense, un abus de terme. En ce qui me concerne, il n'y a pas eu de révolution, il n'y a pas eu de changement radical, rapide, il n'y a pas eu de rupture véritablement, il n'y a pas eu de sortie de la légalité, comme le sont assez souvent les révolutions. Donc, essentiellement, même si le mot peut faire peur dans certains milieux, il s'est agi d'une normalisation de la société québécoise. Normalisation veut dire que les deux changements il y a un seul changement fondamental, à mon avis, impliquant deux acteurs, c'est l'apparition sur la scène d'un État qui assume enfin ses rôles dans le domaine de l'instruction publique et des soins de santé, et conséquemment, un recul de l'Église qui, comme institution, avait prétendu, dans sa philosophie politique, devoir occuper ce que l'on appelait les domaines mixtes, l'éducation et les affaires sociales. Alors, là, il y a un changement notoire, enfin, l'émergence de l'État, mais encore là, émergence de l'État qui s'était manifesté au Canada dans l'après-guerre avec le transfert des recommandations de rapports qui s'étaient faits en Grande-Bretagne sur l'intervention de l'État dans le domaine économique. Je passe rapidement parce qu'il me semble que cela nous donne prise sur ce que l'on appelle la Révolution tranquille. Je n'ai pas encore trouvé un substitut qui me satisferait à cette expression, mais il s'agit là de réformes essentiellement, amorcées avant, faites ailleurs, et qui dit réforme exclut révolution, même si on lui accole le qualificatif « on ne peut plus paradoxal » de tranquille. Ça ne fait pas des révolutions fortes quand elles sont ainsi qualifiées. Je passe rapidement au deuxième point, l'aspect insaisissable de la Révolution tranquille. C'est un peu comme l'oiseau des champs, la Révolution tranquille, qui est toujours à portée de vue, mais jamais à portée de main. Hein? Et j'aimerais vous additionner devant vous les flous dans lesquels nous sommes lorsque nous parlons de la Révolution tranquille. D'abord, un flou chronologique dont on pense qu'il est comblé par la fétichisation du 22 juin 1960, c'est-à-dire l'élection de Jean Lesage. Hein. Cela serait comme un degré zéro qui permettrait d'identifier la Révolution tranquille, dont d'ailleurs on s'est mis à la recherche du père. Hein. Je ne serai pas psychanalyste longtemps ici, mais on a cherché des pères à la Révolution tranquille. On en a trouvé un certain nombre. On a pensé que Jean-Charles Harvey était un père de la Révolution tranquille. On a pensé que le père Georges-Henri Lévesque était un père de la Révolution tranquille. On a pensé que Georges-Émile Lapalme était le père de la Révolution tranquille. Je pense qu'il l'aurait peut-être souhaité, peut-être mérité, quand on voit le ton d'amertume que l'on trouve dans ses mémoires. Alors, il y a un flou chronologique en amont quant au point de départ de la Révolution tranquille, et il y a aussi un flou chronologique en aval. Quand faites-vous finir la Révolution tranquille, si vous la faites finir? En 1966, avec le retour au pouvoir du gouvernement de l'Union nationale, en 1970 avec la crise d'octobre, en 1976 avec l'élection du Parti québécois, en 80 ou en 95 avec les deux référendums, bref, on est dans un flou chronologique où la détermination du moment alpha et du moment oméga de la Révolution tranquille ne nous sont pas fournis. Un flou historiographique aussi. Je prétends savoir que si c'était publié un ouvrage un tant soit peu satisfaisant sur l'histoire de la Révolution tranquille, on en aurait entendu parler et j'aurais eu le réflexe de le mettre en référence dans mes cours en histoire. Mais il me semble que l'absence d'une histoire un tant soit peu satisfaisante de la Révolution tranquille est un bon signe que nous manquons de clés pour comprendre cet événement. Le flou chronologique, historiographique, est entretenu aussi par le fait que depuis 1960, et Guy Rocher l'a rappelé, que nous sommes dans une impression de réforme perpétuelle. Hein? Le ministère de l'Éducation n'a pas fini de se réformer, le ministère de la Santé n'a pas fini de se réformer, tant et si bien qu'on ne voit plus le moment initial de ces réformes qui sont toujours en mouvement depuis le milieu des années 60. Et justement, cette impression de réforme perpétuelle porte sur le rôle de l'État dans les deux secteurs cruciaux qui ont été ceux de la Révolution tranquille. Et puis, autre flou, c'est les lectures successives qui ont été faites par différentes générations de ce moment dit de la Révolution tranquille. Guy Rocher proposait de bien distinguer entre les inspirateurs des changements, les promoteurs de ces changements et les réalisateurs de ces changements. Or, les lectures générationnelles successives de ces changements et de ces événements a créé une confusion pas simplement sur la datation, mais sur la nature même de ces changements. Par exemple, ceux qu'on dit appartenir à la génération X, qui ont fait une critique des baby-boomers, ont donné l'impression que les baby-boomers étaient ceux qui avait fait la Révolution tranquille. Alors que si on regarde techniquement ce phénomène du baby boom, qui commence selon les démographes en 1946, le baby boomer né en 46 a 20 ans en 1966. Il a beau être précoce, c'est pas lui qui l'a fait, cette révolution. Qu'il en ait été le propagandiste et le continuateur, qu'il ait occupé des postes dans les institutions qui avaient scellé un certain changement, d'accord, mais voyez comment la confusion peut naître de ces lectures successives. Autre source possible de confusion, c'est la dimension politique de ce phénomène de l'intervention de l'État, qui est un phénomène nouveau après 1960, et comme je vous le dis, je le proposais, qui est probablement le changement le plus important, le plus visible, le plus notoire. Or, cette intervention de l'État, qu'on a vue dans un certain nombre d'institutions, de ministères, cette intervention de l'État s'est aussi faite dans le domaine politique, à des phases et avec des forces différentes. C'est-à-dire que la conception de l'État du Québec comme levier économique, levier social, est aussi devenue, même au temps du gouvernement Lesage, un levier politique dans les revendications constitutionnelles, par exemple. Mais plus on progresse dans les décennies après 60, plus cet interventionnisme politique de l'État se prononce, s'accentue, dans la mesure où, entre autres choses, un gouvernement, un parti souverainiste est élu pour la première fois dans l'histoire du Québec en 76 et prend le pouvoir, conférant donc à l'État sa dimension de levier économique de plus en plus important et de possible levier politique pouvant faire la souveraineté du Québec. Or, là-dessus, il y a une situation d'inachèvement à nouveau. Hein? Encore là, si la souveraineté s'était faite, ça se serait su. Hein? Bon. Ce qui ne veut... Je n'interprète pas le référendum de 95, hein? Sauf pour répondre à des questions éventuellement. Mais ce que je veux vous souligner, c'est que cette impression de réforme perpétuelle qui empêche de désigner des moments d'arrêt ou de transition, à cela s'ajoute un projet d'achèvement politique dans cet État qui ne s'est pas encore accompli, si bien que pour ceux qui pensent que la Révolution tranquille portait ce projet, elle apparaît, bien sûr, encore inachevée. Autre flou dans la représentation de soi. Et là, j'aimerais ici revenir sur l'effet de la montée de l'État dans la vie publique et conséquemment le recul de l'Église dans cette même société. Et je pense, et cela, c'est une mise en bouche pour vous faire comprendre mon propos suivant au sujet de la compréhension de la Révolution tranquille dans les rapports que nous entretenons maintenant avec le passé. Je pense que la perte en puissance civile, temporelle, politique de l'Église était simultanée à la disparition du spirituel et du symbolique qui venait avec ce recul. Et je pense qu'on n'a pas retrouvé de remplacement, de substitut à cette dimension collective symbolique. Là, je ne parle pas simplement des clercs qui ont défroqué, je ne parle pas des églises qui ont été transformées en condos, qui sont devenues des restaurants. Bref, ce recul de l'institution ecclésiastique s'est fait en même temps qu'une liquidation partielle, plus ou moins forte, selon les analystes. Lucia Ferretti nous en dira peut-être davantage à la prochaine conférence. Mais je veux souligner que il y a un flou dans la représentation de nous-mêmes qui vient du fait que la dimension spirituelle, intellectuelle, symbolique, hein, qui peut ne pas avoir rapport avec la religion, cette dimension-là s'est estompée et on n'a pas trouvé à remplacer une part symbolique de nous-mêmes. La contre-culture des années 60 n'a pas duré. Ce que l'on a appelé les soutanes rouges, hein, à l'époque où on pensait que le marxisme allait remplacer symboliquement ce qui s'était estompé, la laïcité « made in Quebec », elle existe, cette tradition de laïcité, mais elle est marginale. Depuis Méplet, depuis Dessaulles, depuis le sénateur d'Endurant, depuis le mouvement laïque de langue française, dont il faut bien savoir qu'il naît en avril 1961 et qu'il est rapidement dépassé sur sa gauche, hein, même si le mouvement et certains de ses membres avant 1961 avait posé la question de la laïcité dans la société. Je pense que l'on prend comme signe que nous sommes une société laïque parce que nous sommes donné un ministère de l'éducation que nous aurions dû nous donner et garder en 1867. Mais ce ministère de l'éducation où beaucoup de clercs défroqués ont travaillé, tant mieux parce qu'ils avaient une expérience, hein? Mais la tradition laïque au Québec n'a pas remplacé la dimension spirituelle, intellectuelle, symbolique. Pour moi, le signe de la jeunesse de la tradition laïque au Québec, c'est le fait qu'on a fondé un ministère de l'Éducation en 1964, mais qu'il a fallu attendre 1997 pour que nous nous donnions des commissions scolaires non pas confessionnel, mais linguistique. S'il y avait eu une tradition laïcisante, dynamique, forte, soutenue par un passé, je pense qu'on aurait demandé, sinon un amendement constitutionnel, du moins une réglementation pour laïciser ces commissions scolaires. Je me demande jusqu'à quel point même l'effervescence culturelle depuis les années 60, je me demande jusqu'à quel point cette effervescence, celle de Félix Leclerc, de Vigneault, d'Anne Hébert, de Gaston Miron, de mon oncle Antoine, de Jutras, jusqu'à quel point cette créativité culturelle, cette effervescence culturelle a-t-elle véritablement recombler le vide symbolique laissé par la liquidation, disparition de l'élément religieux, de l'élément catholique. Mais le flou principal, il est pour moi dans le rapport que nous entretenons maintenant avec le passé. C'est parce qu'à partir du moment où on considère que le passé, les traditions, l'histoire constituent une valeur fondamentale, je pense que notre dialogue continué et continuel avec la Révolution tranquille, que ce dialogue porte fondamentalement sur cette question. Et c'est là qu'on voit, je vais prendre une expression que le chanoine Groux a utilisée à partir de 1924, notre maître le passé, hein, qui résume dans l'esprit de beaucoup de gens, ou en tout cas dans le mien, hein, cette idée que le passé est notre maître, et qu'en 60, le passé, c'est-à-dire l'autocratisme de M. Duplessis et l'autoritarisme et le dogmatisme de l'Église catholique, c'était cela, en 1960, notre maître le passé. et que voulions-nous faire et qu'avons-nous fait avec ce maître? Hein? Avons-nous encore un maître si nous voulons perpétuer la métaphore? Et c'est mon troisième propos, c'est ça qui est l'enjeu, je pense, de le rapport confus et flou que nous entretenons avec la Révolution tranquille, dont on semble ne pas savoir quand elle commence et quand elle finit. J'avancerai que ceux et celles qui, en toute bonne foi, dans un contexte donné, et je ne suis pas certain de ne pas être un des leurs, je suis prudent ici, je préfère ouvrir la porte moi-même que de la faire enfoncer. Ceux qui, par exemple, ont eu tendance, de la même façon que la génération X a identifié les baby boomers à la Révolution tranquille, hein, de la même façon, assez souvent et assez longtemps, ce n'est plus tout à fait le cas, on a interprété la Révolution tranquille à la lumière du refus global de Bourdieu et des automatistes. Pendant un certain temps, hein, et là, évidemment, le substantif « Révolution tranquille » apparaissait pertinent dans la mesure où il était associé au refus global, à la radicalité de cette position, hein, dont on disait, où on disait, entre autres, qu'on est toujours quitte envers le passé. Pourquoi y a-t-il eu dans les mentalités cette association entre 1948 et 1960, entre le refus global et la Révolution tranquille? Je vous propose une hypothèse de compréhension de cela. Je pense que il y avait un tel besoin de rejeter ce qui avait précédé les années 60, notre maître le passé, le duplessisme, le conservatisme et politique et religieux, il y avait un tel besoin de rejeter cela d'une part et un tel besoin de s'assurer qu'il y aurait un rejet radical de cela pour que ce maître le passé ne revienne pas au galop comme un naturel de notre culture. Nous ne voulions plus avoir ce maître, ce type de passé comme maître, et conséquemment, l'idée du refus global nous convenait pour comprendre certaines origines de la Révolution tranquille. La question qui s'est opposée, qui se pose dans les écrits de Bourdieu, en partie dans les écrits de Pierre Vadeboncœur, je dis bien en partie parce que Pierre Vadeboncœur est revenu là-dessus, hein, c'est cette idée de la rupture du rejet global, à telle enseigne que certains, dans cette volonté d'empêcher le retour, hein, pour empêcher qu'un refoulé ne revienne, hein, le geste le plus certain à faire, c'était de jeter le bébé avec l'eau du bain. Et cette attitude post-1960 à l'égard du passé me semble assez caractéristique du flou que nous entretenons à l'égard de cette révolution tranquille. À telle enseigne que, pour moi, la Révolution tranquille est un moment historique dans l'histoire du Québec, du même ordre que 1760, du même ordre que 1837 et 1838, hein, parce que dans les trois cas, on a affaire à une difficile compréhension du phénomène, on a affaire à des phénomènes d'inachèvement, de non-règlement de ces situations qu'ont été la conquête, qu'ont été la résistance et les rébellions. Alors, quatrième point, Et c'est ce que je pense apporter dans le prochain bouquin. Je vous le dis tout de suite, il va sortir en septembre, alors ne vous empêchez pas de dormir, on ne l'aura pas avant. Hein? Bon. Mais ce que je pense que j'ai trouvé dans les recherches que je fais sur les années 30 jusqu'à 65, c'est une réponse à ce que j'appelle l'énigmatique grande noirceur. Parce que je me suis toujours demandé à quoi sert et à qui sert l'usage de cette expression, la grande noirceur. Cette expression cache quoi chez celui ou celle qui l'utilise? Parce que c'est une idée globalisante que cette idée de la grande noirceur, dont on ne sait pas non plus ce qu'elle recouvre. Hein? Est-ce qu'elle commence avec Mgr Bourget ou si elle commence avec Maurice Duplessis? Hein? Mais la grande noirceur a une fonction d'exorcisme qui nous permet, entre autres choses, d'ignorer l'histoire. Indirectement, cette grande noirceur, d'autres que moi essaient de déboulonner cette idée. Entre autres, les jeunes chercheurs, les jeunes historiens québécois travaillant dans le domaine de l'histoire religieuse insistent beaucoup face aux historiens plus vieux que moi, évidemment, face à ces historiens, baby boomers, anticléricaux déphasés et attardés, parce qu'ils se sont intéressés au libéralisme radical, insistent beaucoup pour dire « ces historiens font une lecture d'avant les années 60 comme ils ont lu le 19e siècle » Et ça les empêchait de voir comment, de l'intérieur même de l'Église catholique, hein, s'était amorcé un mouvement de réforme ou de révolution. Cette idée, pour moi, n'est pas nouvelle. Elle est vraie pour un père l'évêque, pour un frère un tel et quelques autres. Je rappellerai à ces jeunes collègues que les structures dominantes, pesantes, poids lourds, les vraies ligues majeures de la domination, c'était la structure ecclésiastique. Bon. Alors, ma thèse générale, c'est de dire qu'il y a, pour différentes raisons, à travers le globalisme de cette idée de la grande noirceur, il y a un gommage de l'évolution qui s'est faite, des changements qui se sont opérés de 1930 à 1960. Ces changements s'opèrent dans la décennie de 1930, connaissent un deuxième souffle pendant la guerre et vont retrouver un rythme dans l'après-guerre. Si bien... Alors, tout de suite, je vous précise qu'en ce qui me concerne, c'est l'élection de Maurice Duplessis en 1936 qui reverrouille ce qui avait commencé à se déverrouiller. Hein? Avec tout le bouillonnement des années 30, au plan politique, au plan social, bref, au plan culturel, le bouillonnement des revues de l'époque, les attentes, les aspirations nommées pendant la première moitié des années 30, ces aspirations hein, sont ombragées progressivement par M. Duplessis qui ne tient pas ses promesses déjà, hein, et dont l'élection va fournir des conditions pour que l'Église structurelle reprenne en partie du poil de la bête qu'elle avait perdu grâce à tous ces mouvements de renouveau catholique qu'ils aient été à la relève, dans la JOC, dans la JEC et ailleurs. Donc, il y a, à partir des années 30, il y a un mouvement de changement, de réflexion, d'identification des blocages, de proposition, de déverrouillage de ces blocages. Alors, l'élection de 36 va laisser, comme disait Grou, un goût de cendre dans la bouche de ceux qui avaient mené un certain combat. Mon propos est de dire que la grande noirceur, je pense qu'il faudrait sortir de cette terminologie pour penser les années 30 jusqu'aux années 60, parce que ce qui se passe, c'est ma thèse essentielle dans le bouquin que je prépare, c'est qu'il y a une désarticulation entre, d'une part, une dynamique moderne, modernisante, des années 30 jusqu'à 1960, il y a une dynamique moderne, constante, qui n'est jamais étouffée, qui capitalise, mais parallèlement, il y a une dynamique conservatrice qui se remet sur ses pattes, de façon plus claire après 1936, qui se consolide, et parce que ce mouvement, met en place un pouvoir politique civil étayé sur le pouvoir religieux, cette dynamique conservatrice va réussir à se maintenir. Et si la révolution, les changements qui s'opèrent en 1960 paraissent s'opérer aussi rapidement, c'est que, utilisant la métaphore du mur qui s'écroule en 1960 au Québec, le mur s'écroule parce qu'il est fait de davantage de brèches, si je peux dire, que de ciment lisse et uniforme. L'effritement qui se passe, dont on est témoin au début des années 60, tient au fait que cet écroulement a été produit par ceux qui ont pensé le changement depuis l'après-guerre, y compris ceux qui, déjà dans les années, dans l'après-guerre, commencent à penser la laïcité, la répartition des rôles nouveaux. Il faut bien voir qu'à la revue Cité libre, où il y avait un bon nombre de catholiques pratiquants, mais des catholiques pratiquants qui étaient des anticléricaux. C'est-à-dire que pour eux, c'était clair que l'Église et l'État devaient avoir des responsabilités séparées, dissociées. Mais on est en 50, et ceux qui ont fait les mouvements d'action catholique dans les années 30 reprennent du service à Cité libre. Je donne cet exemple, ce n'est pas le seul. Reprennent du service pour que le changement s'opère. Alors, il y a donc une méconnaissance de cette trame modernisante, moderne, de gens pas nécessairement tombés dans l'oubli, mais on voit la trajectoire. Quand on dit, quand on sait que se trouve parmi les jeunes Canada, André Laurendeau, Jean Drapeau, Pierre Dansereau, Monsieur Lallier, vous voyez comment ces jeunes qui ont peut-être 18-20 ans dans les années 30 vont entretenir cette trajectoire qui nous mène aux années 60. Et il y a donc cette négligence, cette méconnaissance de cette trame de modernité que je pense faire valoir sans trop d'excès, j'espère. Deuxième point où je pense pouvoir apporter des éléments, c'est que cette dynamique modernisante, elle a été portée par un certain nombre de personnes et d'écrivains, et en particulier d'essayistes. Hein? Comme historien, accidentellement arrivé dans un département de littérature, j'ai été contaminé par mes collègues pour mon plus grand plaisir, hein? Et j'ai donc lu les essayistes, j'ai lu Le Moine, j'ai lu Vadeboncoeur, j'ai lu Maurice Blain, Lorando, Pelletier et compagnie. Et ce qu'il faut bien comprendre, c'est que les essayistes, ce sont comme dans l'armée britannique des scouts, hein, des éclaireurs, c'est-à-dire des écrivains qui s'essaient à la compréhension de leur temps, des blocages de leur temps, des aspirations et des moyens de débloquer le temps, si bien que je m'appuie beaucoup sur les essayistes, entre autres raisons, pour voir avec eux comment ils avaient nommé les blocages et les changements désirés, ils avaient reconnu les changements accomplis. Et si j'ai décidé de ne pas m'arrêter dans le quatrième tome, hein, 1939, à vers 1965, encore un lapsus, c'est que je ne veux pas continuer à fétichiser l'année 1960. Pour la simple et bonne raison qu'avec ces essayistes, on voit, hein, ce qu'ils nomment, comment ils le nomment, et il me semble que c'est vers 1963-65 que ceux qui avaient commencé à voir les besoins de changement, qui en avaient formulé un certain nombre de formes, que ces gens-là bouclent la boucle dans leurs essais. Et par exemple, le bouquin, le recueil d'essais de Pierre Vadeboncoeur, « La ligne du risque », qui paraît en 63, le recueil d'essais de Jean Lemoine, « Convergence », on voit dans ce recueil du début des années 60 de textes écrits depuis 1945, on voit la trajectoire, hein, de ceux qui ont pensé leur époque, qui en ont vu les limites et qui en ont cherché un avenir différent. C'est ce pourquoi les essayistes sont intéressants. Alors, avant trois derniers points, je pense que je suis dans les temps pour que vous ayez, vous aussi, votre temps d'antenne. Ce que l'on voit déjà dans les années 30, entre autres, chez André Lorando, c'est la conscience chez ces jeunes Canada, et Lorando en particulier, qu'il peut y avoir un mauvais attachement au passé. Lorando écrit ça en 1935, hein, dans le Manifeste des jeunes Canada. Cette question du rapport au passé qui commence logiquement à se formuler pendant la crise, hein, la crise, d'ailleurs, qu'il faut mettre au pluriel, c'est une crise financière, économique, sociale, politique, spirituelle. Le désordre se généralise et oblige les gens de la décennie, y compris les jeunes qui sortent des collèges et qui n'ont pas d'emploi, les oblige à penser leur présent et à voir comment cette crise économique remet en cause le passé, hein, les structures existantes. Et on commence à voir qu'il peut y avoir un mauvais attachement au passé. Et ça, c'est le disciple le plus près de Groulx qui écrit ça, André Lorando. On est en 35. Bourdieu va reprendre cette idée d'un refus global du passé. Hein? Nous sommes toujours quittes envers lui. Le passé n'a pas à être sacré. et on voit les distorsions de la mémoire. Alors qu'il n'y a pas longtemps, il y a peut-être 10 ans, mon collègue Marc Angenot menait une campagne pour faire changer le nom de la station de métro Lionel Groulx en autre chose, ce qui est son droit. On en a assez parlé, on a notre bureau côte à côte. Ce que je veux dire par là, c'est que Lionel Groulx, à la fin des années 30, est dans son déclin. Comme animateur culturel et, disons, civique. Il continue à être actif, mais c'est l'historien qui devient actif. À l'Institut d'histoire de l'Amérique française, à la Revue d'histoire de l'Amérique française. Et là, on est en 46-47. Et le Groulx, qui découvre l'évolution du nationalisme et bientôt de l'indépendantisme, Groulx meurt en 68, si je ne m'abuse, le nationalisme émergent dans les années 50, ce n'est pas un nationalisme qui convient du tout à Groulx. Ce que je veux faire voir par cette brève évocation de la carrière de cet homme qui s'est tenu debout pendant plus d'un demi-siècle, ce que je veux faire voir, c'est entretenir la confusion que de vouloir parler de Groulx comme étant un maître à penser de la Révolution tranquille. Que Groulx, par le travail qu'il a fait comme éveilleur nationaliste, ait contribué à la mise sur place d'une formulation d'une pensée nationaliste et indépendantiste, oui, mais il me semble à nouveau que le globalisme dont on se montre friand, de faire porter à Groulx à peu près tous les péchés d'Israël, c'est un signe qui a une méconnaissance de la dynamique qui nous mène aux années 60. Alors, je veux terminer par une formulation globale pour dire que, pour moi, la Révolution tranquille, c'est plus une énigme, un problème, qu'une solution, et que la Révolution tranquille, c'est dans l'ordre intellectuel, dans l'ordre symbolique, dans l'ordre mental, la résultante de notre difficulté à comprendre ce qui a profondément et véritablement changé dans les années 60 et la résultante de la difficulté à comprendre comment ces changements se sont opérés. Est-ce que l'on a acheté l'eau? Est-ce qu'on a acheté le bébé avec l'eau du bain? Est-ce qu'on a acheté la bassine? Bref, c'est ça que j'entends. Comment ces changements se sont-ils opérés et quels ont été ces changements? Et pour prendre une formule mnémotechnique visuelle, la Révolution tranquille, c'est comme une belle bagnole des années 60, moderne, chromée, avec tous les accessoires facultatifs que vous pouvez imaginer, surtout avec un pare-brise panoramique comme on n'en voit pas. Souvenez-vous de la Edsel de 1900, je ne sais pas trop quoi. C'est une voiture panoramique, mais le constructeur a oublié d'inclure un rétroviseur. Je pense que ça prend un rétroviseur dans une auto. Je pense qu'il faut que le pare-brise soit plus grand que le rétroviseur. Mais, évidemment, chacun voit ce qu'il voit dans son rétroviseur, mais chacun sait qu'il a besoin de son rétroviseur central ou des rétroviseurs latéraux pour continuer à aller en avant et bien embarquer sur le pont et non pas arriver sur la rive. Alors, merci d'avoir été là. Merci de votre attention. Et je pense que l'on peut prendre un certain moment pour tester ses idées et d'autres idées. Alors, si vous avez des questions, des désaccords globaux ou partiels, bienvenue. Alors, qui se lève le premier ou la première? Disons que pour aller au micro.
Bonjour. Bonjour, mon nom est Daniel Gomez. J'étais chargé de cours en sociologie, à la retraite maintenant. J'avais commencé une maîtrise, un doctorat en sociologie il y a quelques années déjà, et c'était sur la transition de l'Église de 45 à 60, pour comprendre un peu l'évolution de l'Église. Ma théorie de départ, c'était que la Révolution tranquille, c'était une période de transition, transition de l'Église-institution à l'État-institution. Alors, je voulais voir ce mécanisme. Et l'idée que j'avais dans la tête de la grande noirceur, tout ça, c'était assez superficiel, c'est que le Québec émergeait en 60, qu'avant ça, c'était la misère, tout ça. Et à ma grande surprise, en fouillant tout ça, je me suis rendu compte que tout ça était faux. C'est-à-dire que de 45 à 60, les Québécois avaient connu une croissance industrielle très forte, un pouvoir d'achat très important qu'ils avaient consommé, que les salaires avaient progressé, que donc tout ceci, au niveau économique, la grande noirceur, je cherchais vraiment où est-ce qu'elle était. Et puis j'ai constaté aussi que l'État, de 45 à 60, l'État québécois prenait de plus en plus de place en termes de création de ministères. Il y a eu plusieurs ministères qui ont été créés pendant 15 ans. Les budgets de l'État québécois prenaient de plus en plus de place en instruction dans tous les ministères. Le personnel laïque aussi prenait de plus en plus d'importance. Alors je me disais, finalement, arrivé en 60, qu'est-ce qui s'est passé, puisqu'on voyait que l'État n'avait pas arrivé. Ce que ça fait chez moi, c'est que ça a éliminé l'idée de coupure. Moi, pour moi, la Révolution tranquille, c'était une coupure. Or, cette idée-là, elle ne tenait pas la route. Et vous avez parlé tout à l'heure du mur, et moi, c'est l'idée que j'avais. Moi, j'en parlais à mes étudiants, j'ai dit que c'était un mur lézardé qui s'est effondré facilement. D'ailleurs, il y a eu quelques temps après, il y a eu je ne sais pas combien de prêtres qui ont défroqué, c'était incroyable. Donc c'était ça, l'Église était rendue à un État, elle dépendait de l'État. Elle devenait, dans le langage marxiste, un appareil d'État, l'Église, avec Duplessis. D'accord. Il a utilisé l'Église pour investir D'accord. ailleurs, pour investir dans les hôpitaux, D'accord. pour investir dans les écoles, parce qu'elle lui coûtait moins cher. Alors tout ceci, ça a profondément remis en question ma conception que j'avais de la Révolution tranquille. Et puis, j'ai constaté dernièrement au colloque sur Duplessis que beaucoup de gens en arrivaient à la même conclusion. Alors, donc, c'était un petit peu tout ça. Puis je me suis dit, bon, finalement, qu'est-ce que c'est la Révolution tranquille? Qu'est-ce qui reste? Et je crois que là où elle a vraiment été marquante, enfin, entre autres, c'est au niveau culturel. J'ai l'impression que c'est vraiment au niveau culturel, de la création culturelle québécoise, que là, les barrières sont vraiment tombées, que les créateurs ont pu créer tout ça, et que s'il fallait désigner peut-être un point plus que d'autres où cette Révolution tranquille est importante, c'est au niveau artistique, peut-être, la création culturelle. D'accord. Oui, il y a eu beaucoup de choses, il y a eu des ministères, il y a eu des choses créées, mais même les budgets de l'État, on se rend compte que finalement...
D'accord, je vais vous demander de terminer votre commentaire, ne serait-ce qu'en termes de démocratie de parole.
D'accord. Donc c'est un peu toutes les réflexions que j'avais en tête en vous écoutant.
D'accord. Alors, j'aimerais entendre les commentaires et questions et peut-être répondre d'un seul coup, à moins que je sois pris à partie violemment. Là, je répondrai. Mais allons-y.
Pour moi, il s'agit d'une question. J'aimerais comprendre ou avoir comment vous interprétez ou quel regard vous avez dans votre pare-brise ou dans votre rétroviseur, c'est-à-dire dans la Révolution tranquille ou dans la Grande Noirceur, les trois événements suivants. La grève d'asbestos, la mise à l'écart, probablement suite à l'intervention de M. Duplessis, de l'évêque Mgr Charbonneau, et l'arrivée de Mgr Léger, qui deviendra plus tard cardinal de Montréal.
D'accord. C'est clair.
La révolution tranquille, elle est en rien tranquille. Il me semble qu'il y a une révolution extrêmement violente d'un point de vue anthropologique. Vous avez parlé des processus de modernisation, c'est vrai, mais c'est une rupture radicale en termes de rapport du Québécois à lui-même, personnellement et au niveau de l'être ensemble. Et donc il y avait un problème en termes au niveau religieux. On n'a pas été en mesure de concilier vérité et liberté et on a évacué le religieux dans le privé. Et je me demande aussi aujourd'hui si le peuple québécois a réellement assumé réflexivement et surtout affectivement cette rupture radicale. Et aujourd'hui, 50 ans plus tard, il y a à peu près la population qui vieillit, il y a 40 000 immigrants qui arrivent chaque année, et le rapport à l'autre est à l'image du rapport à soi. Or, il me semble, cette révolution, quelque part, je me demande si elle n'a pas fragilisé l'identité, le jugement et les conditions de la reconnaissance de l'autre. Il faudrait absolument, donc, si cette révolution avait un rétroviseur, peut-être que cette sécularisation qui était une rupture dans la forme, mais aussi on rassurait les chrétiens, on disait, mais aussi c'est une continuité avec le message évangélique, peut-être que c'était une rupture radicale, une sécularisation, une liquidation des valeurs, et qu'aujourd'hui, pour composer avec autre soi, on doit savoir qui on est, et que peut-être quelque part, il faut aller chercher ce qu'il y avait de beau et grand dans la tradition chrétienne pour pouvoir faire aujourd'hui à la raison instrumentale et au capitalisme qui nous divise tous et qui opère une diversion, et au lieu de faire face à cette dynamique qui marchandise la société, nous pointons le doigt sur l'autre, l'étranger et l'étrange qui nous dérange. Merci, merci beaucoup.
Oui. Ben, merci pour tout ça, pour avoir ouvert un peu toutes ces idées-là. Mais dans le fond, la Révolution tranquille, c'est une traduction de l'anglais, hein. C'est Quiet Revolution, un journaliste de Toronto. Et il n'y a peut-être pas eu révolution tranquille, mais il l'a eu du côté de l'Ontario, du côté... Moi, j'étais aux États-Unis, j'étais du côté de l'Amérique anglo à l'époque. Et pour eux, constater qu'il existait quelque chose qui s'illuminait là-bas, c'était déjà révolutionnaire. Ça avait été prévu que ça continuerait. Ensuite, c'était les années du Che Guevara, c'était les années des Beatles, c'était les années de France Fanon, ainsi de suite. Et les gens de l'extérieur sentaient ça. Et c'est pour ça que l'idée d'une grande noirceur aussi, qui est une great bleakness, qui est une traduction quelque part aussi, c'est comme si les gens avaient internalisé des visions de l'extérieur pour se les approprier en croyant que c'était eux-mêmes. C'est un peu ce que vous dites, hein. Mais il y a quand même quelque chose qui... Oka ne peut pas être prévu dans ces années-là. La crise d'Oka qui résulterait plus tard, ainsi de suite. C'est comme si je regarde ici la manique. Vous vous souvenez les intellectuels de liberté qui se rendent là-bas pour faire des poèmes par rapport... Ils font pas des poèmes sur l'histoire. Ils font pas des poèmes sur un géographique. Ils font pas des poèmes sur l'Amérique qui est en eux, là. C'est quelque chose d'autre qui se passe et peut-être ça participe de la même énigme. Alors, c'est ça ma question. C'est comme si il y a une lumière qui vient d'ici, mais elle est niée ici. Puis en même temps, tout le socle américain qui est le nôtre est nié.
Merci.
Léopold Landry, nationaliste et anticapitaliste. Non, tout le monde est d'accord pour dire que la Révolution tranquille a fait faire un grand pas à la société québécoise. Ça, tout le monde est d'accord avec ça. Maintenant, depuis une quinzaine d'années, on a l'impression qu'on veut revenir en arrière. Il y a beaucoup d'éléments capitalistes qui voudraient qu'on revienne aux capitalistes habituels. Il y a beaucoup de monde qui disent que c'est le moment de prendre une décision d'orientation de la société. Est-ce qu'on refait une deuxième révolution tranquille, nationalisant l'éolien, nationalisant l'énergie, donnant un plus grand rôle à l'État? Ou de l'autre côté, est-ce qu'on s'en va vers le capitalisme, privatisant la santé, privatisant Hydro-Québec? Qu'est-ce que vous en pensez? Quel chemin, quelle voie on doit prendre?
Bonjour, mon nom est Gilles.
On va prendre les interventions. Là, il reste deux personnes de chaque côté. Puis ensuite, on va laisser M. Lamonde conclure, si vous permettez. Donc, c'est pas la peine, là, ceux qui ne sont pas déjà là, de vous présenter au micro. Merci.
Mon nom est Gilles Tifot. J'ai une petite question. Est-ce que vous croyez que la Révolution tranquille a valorisé la langue française? Et si oui, comment expliquer son déclin aujourd'hui à Montréal? Merci.
Allez-y, hein, on n'a pas beaucoup
Monsieur
de temps.
Monsieur Lamonde, excusez l'hésitation. Mon nom est Gilles Duguay, j'ai passé ma vie dans la diplomatie canadienne. Mais avant de rentrer au ministère des Affaires étrangères, j'ai surtout eu l'avantage, la joie de vivre 3 ans en Afrique avec le père Georges-Henri Lévesque, dont vous avez parlé ce soir. J'étais son conseiller juridique au Rwanda, j'ai vécu avec lui quotidiennement pendant 3 ans, et je l'ai beaucoup interrogé sur son époque, comment, sorti de Chicoutimi, il avait découvert le monde et sa conception du Québec à partir des années 30 dont vous avez parlé. Ce qui m'a frappé chez lui, c'était l'influence de l'endogène par rapport à l'extérieur. Il était très conscient, comme Québécois de Chicoutimi, de tout ce qui se passait au Québec. Il est devenu l'ennemi personnel, m'a-t-il dit, de Duplessis, et des évêques qui l'ont traîné 3 fois à Rome en procès ecclésiastique ne pas être conforme à la pensée catholique. Et c'est quand il a vu la montée de Mussolini et d'Hitler, il était à Nuremberg, il a vu l'hitlérisme, il a vu l'extrême danger du nationalisme qu'il a évolué et qu'il a pensé que l'Église devait se dégager de la vie collective au Québec. Et c'est là que les évêques et Duplessis ont commencé à ne pas l'accepter parce qu'ils disaient à ses étudiants à Laval, vous devez étudier les sciences sociales comme des laïcs, allez aux États-Unis, ne retournez pas en France, soyez des éléments d'un ferment de dynamisme au sein de la société québécoise.
D'accord.
Je voudrais aussi rappeler le rôle de Godbout, le rôle de la Deuxième Guerre mondiale, le fait que les femmes sont sorties des cuisines pour aller travailler, tout ça. À mon avis, l'influence de ce qui s'est passé en dehors du Québec est majeure.
D'accord.
La guerre mondiale en particulier.
Merci beaucoup.
Bonjour, mon nom est Roland Gladu. J'aimerais que vous commentiez la définition faite par un grand acteur de la Révolution tranquille qui disait que la Révolution tranquille a été faite essentiellement par une demi-douzaine de politiciens, une douzaine de fonctionnaires, puis une cinquantaine de chansonniers. C'est M. Parizeau. J'aimerais savoir si ça a un certain sens concernant votre histoire sociale. Un petit commentaire aussi. Vous aimez beaucoup dire « a-t-on jeté le bébé avec l'eau du bain? » Mais il faudrait penser, dans le temps de la Révolution tranquille, qu'il y a eu une pilule qui a été fortement libérateur. Et qui était avalé par les femmes, mais vraiment pas digéré par le clergé. Mmh.
Alors, bonjour. Moi, ma question, peut-être que le commentaire de monsieur, en fait, il a déjà répondu, c'était quant à l'origine de l'expression, vous dites que ça venait de Quiet Revolution, et quand est-ce que le peuple s'est approprié cette expression-là, en fait, pour penser son histoire? Puis l'autre truc que je me demandais, c'était que moi, j'avais entendu que ça avait un possible lien avec la librairie tranquille qu'avait vendu, mais c'est peut-être juste une rumeur, ça, mais...
OK.
Mais je voulais juste savoir si c'était vrai.
On va commencer par la dernière, je pense que c'est le plus facile. Non, je pense que M. Tranquille, dans la librairie duquel, comme vous le savez, a eu lieu le lancement du refus global en 1948, en un sens, on pourrait chercher une paternité à la Révolution tranquille du côté de M. Tranquille. Mais parlons de cette question « Quiet Revolution ». C'était sur mon papier, Jean Morissette, et vous l'évoquez à nouveau. Il y a là, c'était un autre exemple du flou dans la perception des choses. C'est que lorsque Tom Sloan publie son bouquin chez Ryerson en 65, qui s'appelle « Quiet Revolution », que Michel Van Skendel traduit le bouquin chez HMH en 66, donc la traduction entraîne l'adoption de la formule, mais il y a là un paradoxe. Hein? Quelle que soit l'acuité de la perception de Tom Sloan, ça restera un observateur de l'extérieur du changement fondamental, des changements qui se sont opérés. Et curieusement, nous avons adopté non seulement l'expression « Quiet Révolution tranquille hein, », mais nous avons adopté en quelque sorte l'espèce d'interprétation ou de lecture qui vient avec l'expression. Et c'est peut-être une des raisons pour lesquelles la compréhension de ces changements-là n'a pas beaucoup progressé, parce que tant que vous restez dans la certitude que c'est une révolution tranquille et dans l'autre certitude qu'elle est tranquille, vous avez fait les deux pas principaux que vous pouvez faire pendant toute votre vie avec cette expression-là. Alors, bref, c'est une expression qui traduit une lecture d'un observateur extérieur avec les qualités de cela, bien sûr, mais aussi avec les limites. Alors donc, je pense que c'est pour ça que, à tort ou à raison, trouver une autre formule que Révolution tranquille, ça sera peut-être un défi que mon éditeur, j'espère qu'il n'est pas là, va me poser. À propos de la rupture radicale avec soi-même. Vous voyez un élément révolutionnaire fort dans cette rupture. en bonne partie, c'est ce que j'évoquais en disant que la dimension symbolique du religieux n'avait pas été remplacée. Et c'est ce qui fait que dans les débats contemporains depuis la commission Bouchard-Taylor et le débat actuel sur la laïcité, c'est ce qui fait que dans certains milieux, on croit pertinent d'opposer à l'affirmation des valeurs religieuses de certaines communautés québécoises d'opposer une dimension de l'identité qui serait le catholicisme, mais une dimension de une dimension religieuse dont on ne sait pas trop quoi faire, hein, parce qu'on ne sait pas très bien qui est encore porteur de quoi. Et c'est précisément ce que j'ai essayé de faire comprendre de fondamental ce soir. On ne sait pas très bien ce qui a changé, ni comment ça a changé, ni ce qui a été liquidé. Oups! Bon, c'est de l'eau. Alors, l'enjeu, il est là, il est fondamental. Mais le problème, c'est que au moment des séances de la commission Bouchard-Taylor, ce que l'on entendait dans des bouches de catholiques qui semblaient très conservateurs, comme ce qu'on entendait dans la bouche de laïcs qui semblaient porteurs d'une tradition laïque québécoise, la question qu'on se demandait, c'est qui est représentatif de quoi? Hein? Quel a été le coefficient de pénétration dans les mentalités de ces changements qui se sont opérés. Et on a eu tendance, peut-être on a eu tendance à se percevoir comme étant plus laïque qu'on ne l'était, hein, pour se convaincre qu'on allait faire barrage à ce qui aux refoulés qui pouvaient se remanifester. Alors, cette composante symbolique, je pense que ça pose problème. Et à partir du moment où le passé, la mémoire, l'histoire est une autre valeur symbolique fondamentale, notre rapport au passé, notre perception du passé, la perception de ce que l'on veut retenir, hein, en est marqué. En d'autres termes, qui veut récupérer quoi d'un passé perçu comme ayant été aussi anesthésiant? Hein? Bon. La question de l'État, j'y ai fait allusion. Lucia Ferretti me disait qu'elle avait commencé une recherche sur l'émergence de l'État. Elle nous en parlera peut-être, j'espère qu'elle va finir sa recherche, parce que c'est une donnée sur laquelle, personnellement, j'ai pas beaucoup d'informations. Daniel Latouche avait écrit un article célèbre dans les années 70, je pense, à propos de l'interventionnisme d'État dans les budgets de différents ministères. jusqu'où l'État était-il aussi présent qu'on peut penser qu'il le fut avant 1960? Ça reste à documenter parce que le libéralisme économique de M. Duplessis ne permettait pas beaucoup d'intervention dans le domaine ni de l'éducation, ni de l'économie. Son attitude à l'égard du syndicalisme n'annonçait pas quelque forme de volonté d'État-providence. Donc, la question de l'État, ça demeure en bonne part un inconnu. À propos de la grève d'asbestos de Mgr Charbonneau et de Mgr Léger, il y a des moments forts, le refus global en est un, l'année suivante, la grève d'asbestos. Mais encore là, la perspective historique qu'on peut donner à l'histoire du syndicalisme, hein, asbestos a été un moment très fort de lutte du syndicalisme catholique. Mais en 1937, hein, le même syndicalisme catholique surprend les manufacturiers de textiles dans 7 usines au Québec et surprend les frères Simard à Sorel au chantier naval parce qu'ils mènent en 37 une grève très forte et les capitalistes... Les industriels sont les premiers surpris de voir ça. Au mieux, au pire, ils seraient attendus à une grève faite par les syndicats internationaux, c'est-à-dire les syndicats américains. Mais de voir que tout d'un coup, le syndicalisme catholique lui-même, 12 ans avant asbestos, avant l'amiante, hein, que le syndicalisme catholique s'y met, ça a été surprenant. Ce que je veux dire, c'est que asbestos a été un moment fort, hein, qui a confronté le milieu syndical au milieu capitaliste et au milieu de l'Église hiérarchique, hein, d'où l'évacuation de Mgr Charbonneau, entre autres. Mais c'est parce que là, il y avait des acteurs plus pesants qu'il s'en était trouvé, disons, en 37 ou pourtant. Le syndicalisme catholique, avec Gérard Picard et bientôt Jean Marchand, allait mener les combats qui vont mener à la CSN en 60. La CTCC, on peut la voir comme étant une centrale catholique assez conservatrice à partir de 21, mais à la fin des années 30, le militantisme devient plus sérieux. Charbonneau, comme vous le savez, est un évêque franco-ontarien qui avait été évêque de Hearst et de Sudbury avant d'être nommé à Montréal. C'était un exogène, pour prendre votre terminologie, et c'est quelqu'un donc qui avait regardé de l'extérieur. C'est ma façon de dire que je crois à l'observateur extérieur. C'est vrai pour Sloane aussi, mais on peut poser certaines questions. Dans le cas du cardinal Léger, la biographie de Denise Robillard du cardinal Léger me semble le montrer comme un évêque et un archevêque très traditionnel et assez ostentatoire, comme Mgr Bourget en avait initié la tradition. J'ai toujours compris le grand geste qu'il avait posé de déposer sa soutane rouge à Montréal et de revêtir une soutane blanche pour aller parmi les lépreux, comme s'il avait compris le changement qui s'était opéré autour de lui et en lui. Est-ce pertinent? Il me semble que c'est une façon de dire que le cardinal Léger a pris conscience par lui-même qu'il était dépassé sur sa droite même. Oui. Oui, bien là, sinon, on peut faire ça plus informellement autour d'un verre d'eau.
Alors, avant de remercier Yvan Lamonde, je veux donc, comme il l'a fait lui-même très généreusement, vous mentionner que la prochaine conférence sera celle de Lucia Ferretti. Elle aura comme thème « La grande noirceur, mère de la Révolution tranquille, point d'interrogation ». Et elle aura lieu dans un mois bien exactement, ici, le 9 mars, mardi 9 mars, à 19h30. Je vais aussi profiter de l'occasion pour souligner la présence parmi nous d'autres conférenciers de la série. J'ai vu Pierre Fortin, si je ne me suis pas trompé, est-ce qu'il est là? Pierre, bonsoir Pierre. J'ai vu aussi Marc Laurendeau, bonsoir Marc. Donc, Pierre Fortin prend la parole le 11 mai, et dans le cas de Marc, c'est le 9 novembre, il va falloir être un peu patient. Mais je ne sais pas s'il y a d'autres conférenciers qui sont parmi nous que j'ai oubliés. J'ai nommé Lucia, pardon. Et donc, je conclue en vous disant que, bien sûr, Yvan Lamonde reste un peu à votre disposition pour discuter, mais surtout, en notre nom à tous, de le remercier d'avoir posé plus de questions que d'apporter de réponses, qui vous stimulera à être parmi nous et d'arriver tôt le 9 mars prochain. Bonne soirée.